Bon. Donc, bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Voilà, je voulais juste dire deux petits mots pour présenter ce que je vais vous dire. Alors, d'abord pour vous dire que ce travail que je vous présente, c'est absolument pas le mien. C'est celui d'une jeune chercheuse de l'équipe Paris 8, donc Séverine Cacpo. Voilà, qui me semble intéressant à plusieurs titres, je vous dirai pourquoi. Voilà, la première fois que j'ai entendu Séverine Cacpo parler de son travail, et à l'époque elle était en train de rédiger sa thèse par rapport à ce travail-là, c'était en 2010 dans cette même salle. Et suite à cette intervention, et parce que on avait entamé sur le territoire où je travaillais depuis quelques années, pas loin d'ici, sur la question du travail personnel et des devoirs à la maison, on a pu la faire venir à Saint-Priest, et où elle est intervenue pour l'ensemble des enseignants du premier et du second degré de la commune, ce qui nous a permis de partir sur une représentation commune des problèmes. Voilà. Et donc, on a pu la réentendre ici, il n'y a pas longtemps, sur le stage réussir en éducation prioritaire qu'on a fait début janvier. Voilà. Donc, les diapositives que je vais vous présenter sont les siennes. Hein, voilà, je tiens à le dire. Et dans ce que je vais vous présenter, donc, je pensais que c'était vraiment important de faire une large part au corpus qu'elle présente, parce que voilà, c'est la parole des parents et des enfants qui sont mis en avant et qui nous permet de nous faire une image de ce que d'habitude on ne voit pas. C'est-à-dire quand on est enseignant, quand on est dans sa classe, quand on est dans son collège, dans son école, on ne voit pas ce qui se passe dans les familles. Et on est souvent sur une représentation fantasmée de ce qui s'y passe. Il me semble qu'un des intérêts de cette recherche, c'est d'avoir un regard sur ce que d'habitude on ne voit pas, et du coup d'avoir une représentation peut-être moins fantasmée de cette réalité. Deux mots aussi sur le cadre de la recherche que Séverine présente aussi à chaque fois. Je pense que c'est important de le savoir. Donc elle a enquêté dans une vingtaine de familles, pour la plupart issus de l'immigration de la banlieue parisienne, qui ont leurs enfants scolarisés en éducation prioritaire. Et ce qui est important à dire, c'est qu'elle n'a pas enquêté dans des familles qui vivent des grandes situations de précarité. Elle a choisi volontairement d'enquêter dans des familles, on va dire, qui ont réussi à avoir un peu de prise sur leur vie, un peu de stabilité, bien qu'appartenant au milieu populaire, de par leur métier, leur qualification, leur parcours scolaire. Voilà. Et donc, elle est allée enquêter, voir ce qui se passe dans ces 20 familles. Et donc, elle a pu avoir une série d'entretiens, à la fois avec les enfants et les accompagnants parentaux, comme elle le dit, puisque c'est pas forcément le père et la mère. Ça peut être une tante, ça peut être voilà. Ce qui me semble vraiment très intéressant dans le travail de Séverine Cacpo, c'est qu'elle permet de mettre en avant trois faits marquants de l'évolution, on va dire, de la scolarisation depuis 30 ans. Le premier point, c'est que il y a une transformation. On en reparlera dans le courant de l'exposé, mais il y a vraiment une transformation des attendus scolaires. Le deuxième point, c'est que, et ça c'est lié aux conditions sociales de l'emploi dans la société, il y a une pression scolaire qui s'accroît. C'est-à-dire qu'il devient de plus en plus difficile de réussir dans la vie sans avoir réussi à l'école. Et ça, toutes les familles dont parle Séverine Cacpo en sont très conscientes. Voilà. Et Dernier point aussi qui semble vraiment fondamental, c'est de se rendre compte que au fur et à mesure que l'école a souhaité se démocratiser depuis la fin des années 70, il y a eu ce que Séverine Cacpo, Patrick Rayou, un certain nombre de chercheurs appellent une externalisation du travail personnel. C'est-à-dire que de plus en plus, l'école sous-traite à l'extérieur ce qui, auparavant, quand la scolarisation en collège, en lycée ne concernait que les élèves des classes favorisées, ce qui se passait à l'intérieur des murs de l'école. Et il me semble que, à travers ce regard sur une vingtaine de familles, on croise vraiment ces trois évolutions de la scolarisation et qui me semblent être une bonne part des problèmes que nous rencontrons actuellement. Voilà. Pour se mettre dans le bain, un petit extrait. Donc Laurence, donc qui est la maman de Loïc, donc un des enfants auprès desquels il y a eu une enquête. Donc Laurence a 36 ans, un CAP coiffure, et son mari Patrice, 45 ans, un CAP charcutier. Et Loïc est en sixième. Là, par exemple, il y a un livre à lire pendant les vacances à son fils. C'est quoi le titre ? Loïc. L'Odyssée d'Homère. Il y aura un contrôle. L'enquêtrice. Et comment vous faites pour vérifier le travail dans ce cas-là ? Laurence. Ben, je pense qu'il va falloir qu'il le relise une deuxième fois, hein. On a commencé à lui poser des petites questions. Bon, pour l'instant, les personnages et tout ça, ça a l'air d'aller, mais bon, il va falloir qu'on le lise aussi. Patrice, le mari. Bah oui, c'est ça, parce que à partir du moment où faut qu'on lui pose des questions, faut qu'on l'élue, parce que sinon, Loïc, étonné. Ah, parce que vous l'avez pas lu ? Les parents, bah non. Loïc, il est sorti il y a longtemps, depuis très longtemps même. Ben oui, Loïc, mais bon. L'enquêtrice, donc en fait, vous allez le lire. Laurence, ben oui, il faut qu'on le lise. Et qui va le lire ? Rire un peu gêné des deux parents. T'aimes bien lire, papa ? Dit-elle à son mari. Qui fait mine que non. Non, moi je vais le lire, je vais le lire. L'enquête de Séverine Cacpo, elle montre, et ça confirme un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites notamment par l'ADEP, c'est que il y a une mobilisation des familles, y compris des familles populaires, autour de la question des devoirs. Ce qu'elle montre aussi, c'est que ce travail, même s'il est sous tension, parce que c'est compliqué, parce que ça crée de la tension à l'intérieur de la famille, le plus souvent, les familles populaires choisissent de le garder à l'intérieur de la maison, même si il y a plein d'offres d'accompagnement à la scolarité autour. Et ce qu'elle montre, c'est que ce travail scolaire qui est fait à la maison, les parents des familles populaires ne sont pas en reste pour en donner en plus. Mais c'est que dans ce en plus, il peut y avoir aussi beaucoup de choses qui peuvent, j'allais dire, en tout cas, créer de la tension avec les attendus de l'école. Voilà, j'insiste pas là-dessus, ça a été déjà pas mal évoqué, notamment par l'enquête de la FEV, mais vraiment, il y a une mobilisation très importante des familles populaires, contrairement à ce qu'on croit souvent. Par contre, effectivement, au fur et à mesure que les enfants grandissent, les parents se sentant de plus en plus démunis, cette aide devient de plus en plus problématique et certains parents décrochent, entre guillemets. Alors, le plus, on va dire, qu'apporte le regard de Séverine Cacpo par rapport à ça, c'est qu'elle montre que les parents des familles populaires se contentent pas de faire ce que on attend et que souvent, en tant qu'enseignant, on peut parfois dire aux parents « Bon, même si vous savez pas faire, c'est pas grave, il suffit d'être là et de surveiller. » Alors, on se rend compte que bien souvent, d'abord, ça ne suffit pas, mais que les parents des familles populaires n'en restent pas là. C'est ce que Séverine appelle la main à la pâte des apprentissages. Et elle va parler même jusqu'à, elle appelle ça, des milieux didactiques familiaux. Pourquoi ce travail des parents est-il sous tension ? D'abord, et ça, il suffit d'avoir été un petit peu enseignant à faire les études le soir pour se rendre compte que c'est un vrai problème, y compris quand on est enseignant et qu'on essaie d'aider les enfants pour faire leurs devoirs. Les tâches qui sont demandées renvoient souvent à des enjeux d'apprentissage qui ne sont pas acquis en classe. La deuxième chose qui fait que c'est sous tension, c'est que, et ça, Annie en a un petit peu parlé, il y a une certaine conception de l'aide. On veut renvoyer à l'école une image d'une bonne famille qui suit bien les enfants. On veut renvoyer une bonne image. Et cette forme d'importation dans les familles des normes scolaires, elle est très forte, y compris dans les milieux populaires. Voilà. Ce qui va parfois poser problème, parce que ça renvoie à ce dont j'ai peut-être dit deux mots en introduction, cette évolution des normes scolaires. Et le problème, c'est que entre les normes scolaires visibles, renvoyées par l'institution, et les normes scolaires invisibles, c'est-à-dire les normes qui permettent effectivement de réussir à l'école, il y a une distorsion. Un certain nombre de chercheurs parlent de quelque chose qui s'appelle la croyance dans l'équivalent travail. Tout le monde fait comme si, et souvent nous enseignants les premiers, ce qui comptait c'était la quantité de travail. Il suffit de avoir un petit regard sur les bulletins scolaires pour se rendre compte que c'est ça qu'on renvoie. Mais ce qu'on dit rarement et ce qu'on a du mal à faire, c'est à expliciter qu'est-ce qui permet de réussir le travail. C'est toutes ces normes invisibles, d'enjeux de tâches scolaires, d'enjeux de savoir, que les enfants, notamment et surtout des milieux populaires, ont du mal à dépêtrer des tâches effectives qui leur sont demandées. Et enfin, dernier problème pour les familles populaires, étant donné leur parcours scolaire, leur faible niveau de qualification, ils se retrouvent assez rapidement dans une situation où ils n'ont pas les ressources pour pouvoir aider leurs enfants. Et ça aussi, ça a été évoqué ce matin, ils se retrouvent dans une situation où on peut facilement et on l'a vu dans le petit dialogue que je vous ai lu, on peut facilement se sentir disqualifié. Encore un extrait. À chaque fois, la chose qui revient dans tous les résumés, entre guillemets, des professeurs, c'est que Loïc se concentre pas déjà quand il est en cours. Donc, à partir du moment déjà où il comprend les choses en cours, c'est, comme disait son professeur principal, c'est 50% déjà de la leçon apprise. Donc, le soir, quand il arrive, il aurait même pas à apprendre. Il aurait juste à relire pour recomprendre ce qui a été dit en cours. Suffit-il d'être concentré en classe pour comprendre ce qui s'y joue ? Je vous parlais des évolutions de la norme scolaire et de l'attendu scolaire. Ce qui est affiché ici, donc, c'est un manuel de 5e de français. Je dois autant vous dire pour moi qui n'ai pas fait des études de lettres, quand je vois ça, enfin, je suis très déjà déstabilisé par rapport à ce que j'ai pu voir dans ma propre scolarité en français. Je vous lis rapidement si vous n'arrivez pas forcément à voir. La progression thématique du récit. Un récit, pour être clair et compréhensible, progresse selon trois types d'enchaînement. Progression par reprise, à thème constant. Progression par enchaînement, à thème linéaire. Progression par éclatement, à thème éclaté ou dérivé. Donc, la tâche qui est demandée à la maison le soir, repérer le type de progression dans chaque extrait. Alors, je vous lis pas les extraits. Hein. Voilà. Donc, le commentaire de Priscilla, qui est en cinquième. Oh là là, je te jure, le jour où elle nous a donné ça, on l'a tous regardé avec une tête. Mais je t'ai dit qu'elle est... Elle s'énerve pour rien. Moi, de toute façon, elle m'avait dit de commencer ça en classe, mais moi, j'arrive, soupir de dépit. Elle disait de commencer en classe, mais j'avais rien compris, et j'ai demandé si elle pouvait m'expliquer. Et elle était énervée. Elle m'a pas expliqué, avec une petite pointe d'angoisse. Demain, je l'ai, demain matin, à 9h. Demain, on retravaille sur tout ça. Donc, pour s'en sortir dans tout ça, ben les familles populaires, auprès desquelles Séverine a enquêté, ont mis en place un vrai système de sous-traitance de la commande scolaire. Ce qui est important, c'est de voir les couleurs. En orange, c'est ce qui relève de la responsabilité de l'accompagnant parental, et en bleu, ce qui relève du travail effectif de l'enfant. Voilà. Donc, réception de la commande et lancement de la production par les parents. L'enfant fait ou essaye de faire sous le regard des parents et parfois sous le l'insistance du parent pour dire mais non c'est pas comme ça, enfin voilà. Et c'est pas forcément spécifique aux familles populaires, hein. Je vous ai des enfants, ça se passe souvent comme ça. Le contrôle qualité, est-ce que ça correspond bien aux représentations qu'on a des attentes de l'enseignant? Et si c'est pas parfait, hop, on retourne à la production. Une fois qu'on a fait passer le certificat de conformité, on a le produit fini. Voilà. Alors, le petit commentaire, donc, dans l'entretien de Patrice et Laurence, les deux parents. Donc, on vérifie d'abord. Loïc, quand on arrive le soir, on sort déjà son cahier de correspondance, son cahier de texte, voilà, pour voir ce qu'il y a à faire. Et à partir de là, ben, il se met sur les devoirs qu'il a à faire. On le laisse faire. Une fois qu'il finit, il nous appelle et on vérifie. Une fois que c'est bon, après, on passe à un autre exercice. Si c'est bien, c'est bien. Et si c'est pas bien, ben, il refait. Bon, alors voilà. Il sait pas, à ce moment-là, on l'aide automatiquement. S'il n'a pas compris, on essaie de comprendre jusqu'à ce qu'il ait fait l'exercice de toute façon. Voilà. Donc, là, on a visiblement des familles qui sont parfaitement en adéquation par rapport aux attentes dites et lisibles de l'école. C'est ce qu'on demande aux parents de faire. Quand on les rencontre à la réunion parents-professeurs, quand on les rencontre à 4h30 au portail de l'école, ces parents font ce qu'on leur demande de faire. Autre entretien, donc Priscilla qui est en cinquième. Hier, j'ai appris cette leçon avec ma tante, l'enquêtrice. T'as appris cette leçon avec ta tante hier, Priscilla? Oui, elle m'a expliqué, enfin, m'a montré, elle m'a... Je voulais pas l'apprendre. Alors, tu l'as apprise par cœur? Non. Elle m'a fait lire plusieurs fois. Mais est-ce qu'elle t'a expliqué? Elle sait pas? Elle m'a dit, c'est trop compliqué. Même pour moi, c'est compliqué. La tante de Priscilla, Augustine. Parce qu'il y avait trois récits et moi, j'avais lu comment qu'on expliquait l'autre récit. J'ai dit alors moi, d'après le récit qui était devant moi, je lui ai dit regarde quelque chose là, elle te parle de ça, ça c'est le début, ça. J'ai dit après, elle te montre la progression au fur et à mesure. Mais j'ai pas fait tout le devoir de Priscilla. J'ai dit Priscilla, essaye de comprendre. Mets-toi à la place de l'auteur, essaye de comprendre. Alors, elle s'est mise à lire. Et moi, j'avais Laura à m'occuper. Il faut que je m'occupe de Laura, qui me montre un devoir aussi. Laura, donc, c'est l'autre enfant dont elle s'occupe. Je lui ai dit de commencer à apprendre la leçon, mais comme Priscilla, c'est un enfant qui est têtu, qui veut pas apprendre la leçon. Il faut que je sois tout le temps à côté de Priscilla. Ce midi encore, je vais prendre Priscilla et je vais lui dire la leçon, je t'avais dit, viens à côté de moi, viens, on va la lire, tu vas me montrer la leçon. Puis, il faut apprendre la leçon parce que tapant du poing sur la table, si tu n'apprends pas ta leçon, tu ne peux pas arriver à quoi que ce soit. Et tout le temps, je suis à côté de Priscilla comme ça. Donc là, on voit plusieurs choses. On voit que effectivement, la tante a vraiment du mal à aider Priscilla parce que voilà, c'est compliqué. Et on serait bien en peine un certain nombre d'entre nous de le faire. Et puis, qu'elle essaye du mieux qu'elle peut de pas se disqualifier aux yeux de Priscilla. Alors, une chose qui est aussi importante, quand on voit l'importance que prennent tous les dispositifs d'accompagnement à la scolarité, dans toutes les discussions, les échanges, le partenariat qu'on met en place sur les territoires, c'est qu'il y a en fait très peu de familles qui ont recours à cette externalisation, à cette sous-traitance dans ces dispositifs d'accompagnement à la scolarité. Et ça pour plusieurs raisons. D'abord, parce que elles trouvent que c'est insuffisamment efficace, qu'elles perdent un lien avec la scolarité de l'enfant, qu'il y a une perte de contrôle de l'enfant à un moment crucial, et puis il y a surtout le risque d'être stigmatisé. En gros, si on met son enfant à l'accompagnement à la scolarité, on mettrait sur la place publique auprès des autres familles qu'on ne sait pas faire. Et donc, une bonne partie des familles donc, ne juge pas ça comme quelque chose de rentable. Laurence, le problème de l'aide au devoir, c'est que ça ne sert à rien. Patrice, oui. Si l'instit il est là et qu'il peut pas surveiller le travail que vous faites, ça sert à rien de rester une heure à l'aide au devoir à son fils. Donc c'est pour ça que tu rentres et on s'en occupe. Voilà. Si le prof il a pas le temps de s'occuper de vous, eh ben ça sert à rien. Laurence, ils font les devoirs, le devoir est fait, mais personne n'est là pour le corriger. Donc autre intervenante, donc Augustine. Et je disais, mais descends, va en bas aux séances d'aide aux devoirs proposées par le centre de quartier. Va en soutien. Priscilla, qui a très bien compris, enfin, on veut en venir sa tante. Mais il faisait rien là-bas. Et il les aidait pas en bas. Va en soutien. Au soutien, chaque fois qu'elle rapportait une bonne note, c'est quand je descendais et que je disais au monsieur, à l'animateur, je ne comprends pas, je vous paye et je ne vois pas Priscilla. Alors le monsieur, il se mettait tout de suite, il y en avait un qui l'aidait. Mounia, une autre intervenante familiale. J'ai peur de trop compter sur les autres. Vous savez, ça y est, j'ai fait mes devoirs. Ça y est, c'est bon. Et puis, je vais prendre l'habitude de ne pas vérifier. Ah bon, tu les as fait, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Il y a une copine à moi, une vraie copine, quand même. Son fils, il était bon élève et tout ça. Et tu as fait tes devoirs? Oui, je les ai faits. Après, elle me dit, je sais pas, j'ai plus. Ça y est, elle compte trop sur. Et je ne veux pas que ça m'arrive. Rachida. Elle y va de temps en temps, mais elle fait pas grand chose. C'est les enfants qui font pas leur travail. Je pense, moi, je sais pas, hein. Elle y va, mais je sais pas ce qu'elle fait. Elle fait pas grand chose, hein. Mais elle fait ses devoirs là-bas, quand même, demande l'enquêtrice. Pas vraiment. Je me dis que c'est mieux qu'elle rentre à la maison, et je fais avec elle, au lieu qu'elle perde là-bas une heure pour rien. Je suis obligé de l'insister tous les jours. Nassima, si tu restes à l'aide de devoirs, il faut que tu fais ça. Tu me ramènes les résultats. Il faut que je voie. Mais des fois, elle les fait pas. Elle trouve des excuses. J'ai fait ça. Des fois, elle dit, bon, j'ai pas le temps ou j'ai oublié. Donc, ce qu'on voit là, c'est l'importance. Et ça, c'est aussi à mettre en lien avec ce que disait Annie tout à l'heure. Les choses ont besoin, dans une représentation de beaucoup de ces familles, d'être sous leur regard. Sinon, on a peur de perdre le contrôle. Mounia, non, Redouane y a voulu, il s'est inscrit même, mais il a fait une fois ou deux, et, je sais pas. Vous savez, c'est des petits jeunes qui s'occupent de lui. Et elle, une accompagnatrice, avait pris son carnet, de toute façon, sans demander la permission. Elle a pris le carnet de Redouane et elle a écrit « Si jamais il y a un problème, vous pouvez me contacter, nanani ». Et j'ai dit « Ça y est, basta, tu y vas plus. Vous savez, c'est une jeune. Je sais pas comment vous allez le prendre, vous aussi. Moi, j'envoie mon fils pour faire, voilà. Elle prend son truc, son carnet. Voilà, si jamais Redouane, il a des problèmes, c'est comme si j'existe pas. C'est comme si Redouane, il a pas une famille. » Dernière chose sur laquelle... insiste beaucoup Séverine Kakpo, c'est sur le travail en plus que donnent ces familles. C'est vraiment des familles qui surinvestissent l'école, qui y mettent toute leur énergie, parce qu'elles veulent faire réussir leurs enfants, et pour ça, elles vont au-delà des attentes de l'école. Alors, pour plusieurs raisons. Il y a d'abord parce que un certain nombre de choses qui se font maintenant à l'école semblent pour les familles une perte de temps. Dans les entretiens qu'a pu mener Séverine Kakpo, il y a un certain nombre de familles qui montrent que ils ont l'impression que l'école ne fait plus son boulot. Elle donne un exemple à propos de la lecture, par exemple, c'est devenu une pratique scolaire courante d'envoyer à la maison un album avec des illustrations jolies, etc., pour faire la lecture. Pour un certain nombre de familles, c'est pas du travail, ça. C'est pas du travail, c'est de l'amusement. Donc, en mettant du travail en plus, du travail parfois différent, il y a le sentiment qu'on va pouvoir réparer, refaire à la maison des choses que l'école ne fait pas. Il y a l'idée aussi que, voilà, si leurs enfants sont en difficulté, on va pouvoir essayer de réparer des choses. Et puis, il y a l'idée aussi, donc, que s'il y a des difficultés qui sont imputables à l'enfant, on va pouvoir le remettre dans le droit chemin. Je vous ai pas dit ça dans l'ordre, je suis désolé. Donc, une illustration, c'est un des exemples que prend à chaque fois Séverine Kakpo, parce que c'est vraiment très très parlant. Priscilla ramène à la maison donc son livre de littérature, donc lecture cursive en sixième, où l'enjeu pour le professeur de français, c'est la compréhension et l'analyse d'un texte littéraire. Donc Priscilla commence à lire la lecture qu'elle a ramenée à la maison, cédant du doigt pour lire sur les conseils de sa tante. Vol de bijoux à l'hôtel Métropole. Augustine l'interrompt. D'abord, tu sais, tu as déjà mangé le E. Ça ne va pas. Priscilla marquant le E muet. Métropole le. Augustine l'interrompant. Voilà. Priscilla prenant garde de bien marquer les E muets. L'hôtel fait le ménageux le matin en présence ceux de Célestineux et revient ouvrir les lits le soir dans les mêmes conditions. Autrement, elle ne met pas le pied ici, comme je le disais, poursuivit Madame Opalsen. Je suis montée, j'ai ouvert ce tiroir. Elle désigna le tiroir de droite de sa coiffeuse. Augustine l'interrompt. Alors, si tu dis de sa coiffeuse, tu l'écris sans E. Alors, moi, j'aurais dit de sa coiffeuse. Priscilla. Oui, de sa coiffeuse. Augustine l'interrompt encore, parce que quand on est en orthographe, la maîtresse, elle te dit la coiffeuse. Et toi, tu sais déjà que c'est la coiffeuse. Tu comprends? Allez, on y va. Ce que on voit à travers cet exemple, alors, qui peut sembler très fort, mais sur des choses plus subtiles, ça peut se rejouer sur plein d'aspects du travail scolaire, c'est qu'il y a des croyances, des doxas, qui sont même parfois véhiculées par l'institution scolaire, comme quoi c'est effectivement en lisant beaucoup qu'on pourra être bon en orthographe. C'est des choses qui s'entendent. Hein. C'est des doxas comme ça qui sont présentes dans les familles. Et donc, là, ce qui se passe, c'est que donc Augustine, elle prescrit un travail supplémentaire, parce que pour elle, ce qui compte quand on lit, c'est de mémoriser l'orthographe pour avoir des bonnes notes en dictée. Voilà. Alors, vous imaginez la difficulté que ça rajoute pour Priscilla, qui est déjà en difficulté à l'école, par rapport au réel attendu du travail donné par l'enseignante, qui est donc de l'ordre de la compréhension. Alors, je reviens un petit peu sur ces évolutions aussi de la forme scolaire. Ce qu'il faut, je pense vraiment à se dire, c'est que une bonne partie des parents de nos élèves ont été scolarisés à une époque, à un moment, où les normes scolaires n'étaient pas du tout du même type. Alors, un exemple, alors on l'a vu par rapport au français, un autre exemple par rapport aux sciences de la vie et de la terre. Voilà, un manuel... je ne sais même plus comment ça s'appelait du coup à l'époque, de sciences naturelles, merci, des années 60, voilà, où on est sur des choses qui sont de l'ordre de la catégorisation, hein, donc chaque animal appartient à une espèce, à une catégorie, etc., avec un certain nombre de particularités, et avec chaque catégorie qui est définie en fonction de choses qui sont très, très claires, très nettes, et qu'on peut apprendre. Voilà. Manuel de SVT actuel. Je n'ai pas de commentaires, il y a des commentaires de parents après. Voilà, et puis, ce qui permet d'analyser les documents. On voit que là, les attendus, sur une discipline qui elle-même a évolué, sont plutôt de l'ordre de la compréhension des systèmes plutôt que de la catégorisation. On est sur des choses qui sont bien plus complexes, bien plus difficiles à cerner. Et puis surtout, on demande énormément aux élèves de s'appuyer sur l'analyse de documents. C'est quelque chose qu'on va aussi retrouver beaucoup en histoire-géo. Et la partie court, entre guillemets, elle est toute petite par rapport à la partie court du manuel des années 60, parce qu'il s'agit de faire reconstruire, à partir de l'analyse de documents, les savoirs complexes qui sont en jeu. Donc, commentaire de Ahmed, un papa d'un des enfants de l'enquête. Bon, la chimie, la SVT, comme il dit, je contrôle pas trop, j'ai pas bien... Parce qu'il n'y a que des images. Il n'y a pas trop de texte sur son livre de SVT, à part les formules. Il y a beaucoup d'images et pas assez de texte et pas assez d'explications sur les SVT. Donc l'enquêtrice, d'accord, donc en fait, vous avez du mal à vous y retrouver, Ahmed. On va dire que j'ai du mal à retrouver, c'est-à-dire, comment vous expliquez ça ? Voilà, par exemple, un être humain, je vois pas comment vous expliquer ça. L'être humain, le corps de l'être humain, on va lui définir sa tête, ses yeux, mais après, comment dire, les cellules, on va pas donner des explications. Les yeux, comment ils fonctionnent, avec des textes bien définis, je sais pas. D'accord, il y a pas ces textes-là dans les livres. Il y a pas ces textes-là, c'est pas assez textuel. Il y a que de l'image, parce qu'ils ont momifié, ils ont englobé. Il y a trop de, il y a trop d'explications englobées, quoi, avec un schéma ou une image et tout. Ils ne donnent pas assez d'explications de l'enquêtrice. De détails, c'est pas assez explicite. Ahmed, c'est pas assez explicite. Vous dites momifié ? Non, parce que de toute façon, en général, pour un livre de... Enfin, parce que nous, avant, on avait un livre de chimie et de physique et il y avait des explications différentes. Bien. C'est bien expliqué. Là, c'est vraiment... Ils ont tout englobé ensemble. Et je sais pas comment l'enfant, il fait pour comprendre ça. Adja, souvent on me dit qu'il y a des sorties ou des ateliers pour mes enfants. Je leur dis non, ils vont pas à la sortie. S'ils vont à la sortie, les autres n'ont qu'à y aller. Moi, mes enfants, je les laisse ici et on travaille. Souvent, je dis non, ils partent pas. Je préfère les laisser ici, je leur donne beaucoup de calculs. Désignant Youssouf, surtout lui là, on s'occupe de ça. On remplit des cahiers, bien serrés. Donc, quand on parlait de tout à l'heure de dissonance, d'incompréhension, de normes scolaires qui ont évolué et qui sont pas forcément visibles, lisibles. Voilà les nombreux problèmes que soulève ce travail d'enquête de Séverine Kakpo. Alors, pour résumer, on a des familles populaires, on l'a dit, elle a enquêté dans des familles relativement stables qui essayent d'avoir prise sur la scolarité des enfants, qui essayent de se mettre au diapason des normes attendues de l'école, attendues explicitement ou attendues parce que c'est la représentation qu'en ont les parents. Ça représente une charge énorme. Une des dames enquêtées voulait même arrêter le travail qu'elle avait repris il y a quelques années pour pouvoir se consacrer beaucoup plus à aider un des enfants dont elle a la charge. C'est-à-dire que ça peut avoir aussi un impact, y compris professionnel, cet investissement dans la scolarité des enfants. Il y a énormément de dissonances, de malentendus par rapport à ce travail à la maison. Et parfois, plus certains parents se mobilisent, plus parfois ça peut jouer parfois à l'encontre. En tout cas, ça rajoute parfois des obstacles supplémentaires à la réussite des enfants. Voilà. Ce qui me semble très très intéressant dans ce travail de Séverine Kakpo, c'est qu'elle montre bien qu'une pratique, on ne peut plus banale, ordinaire de l'école, les devoirs à la maison, qui n'est que très rarement questionnée dans l'institution. Cette pratique, elle pose énormément de problèmes, elle est extrêmement discriminante pour un certain nombre de familles. Mais en même temps, on ne peut pas se contenter d'être dans une sorte de polémique pour ou contre les devoirs. On voit bien le débat qui a été alimenté sur cette question ces derniers temps. Je suis intervenu il y a quelques semaines ici avec l'inspecteur de circonscription avec lequel j'ai travaillé pendant 5 ans et on a fait un travail pendant 4 ans sur cette question des devoirs à la maison, du travail personnel. Il l'a dit très bien, on a une loi qui interdit les devoirs écrits à la maison depuis 1956, qui a été rappelée un certain nombre de reprises, mais qui n'est pas appliquée. Qu'est-ce qu'un texte ? Là, je cite mon IEN. Qu'est-ce qu'un texte a comme valeur, qu'est-ce que dit un texte d'une institution quand pendant 40 ans on maintient quelque chose qui n'est pas appliqué. Ce qui serait intéressant, ça serait vraiment de problématiser cette question des devoirs à la maison, réfléchir collectivement comment peut-être que le travail personnel des élèves, c'est peut-être quelque chose qui est essentiel pour leur réussite à l'école. Et à quelles conditions ? Et là, je pense qu'il y a du travail à faire dans l'école, il y a du travail à faire avec les partenaires de l'école, il y a du travail à faire avec les parents d'élèves, il y a du travail à faire avec les élèves, pour essayer de problématiser cette question et faire en sorte que ce travail personnel qui permette la réussite des élèves, eh ben, ça permette un peu plus la réussite de tous. Voilà. Et je pense que en s'attaquant à cette question, en la sortant de la polémique, en la problématisant et en réfléchissant aussi au fait que ces devoirs à la maison, c'est aussi un enjeu sociologique. Les parents, y compris des familles populaires, n'ont pas forcément envie qu'il n'y ait plus rien qui leur soit demandé à la maison pour l'école. C'est important pour eux. Et ça permet de sortir un peu de cette polémique un peu stérile pour et contre, et d'essayer de problématiser pour, à mon avis, faire du travail entre professionnels, du travail sur le territoire, qui permette de faire avancer un petit peu les choses. Voilà, je vous remercie.